Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Je suis vraiment fan de tes textes. Je les écoute, tu vois, genre vraiment pour moi. Parfois, je les réécoute. Et du coup, je me suis toujours dit, il faut que je l'invite. Mais je savais pas quel thème.
Ouais, quel axe prendre.
Voilà. Et j'en ai réfléchi. J'y ai réfléchi il y a une semaine ou deux, quand j'ai fait un gros voyage en van de 8 heures ou 9 heures, tu vois. Et j'étais avec mon stagiaire, et du coup, j'ai dit, vas-y, viens, on cherche un truc pour Félix, un thème pour Félix.
Vraiment, quel honneur dans ce van.
Et on a trouvé, j'ai trouvé ça en plus par rapport à des trucs de ma vie aussi, tu vois.
Ah, un truc que ça avait l'air d'être un peu le...
Voilà, exactement, un truc de ma vie aussi, où on pourrait vraiment, tu vois, avoir chacun une expérience personnelle à partager. Et j'étais trop content, et après, je l'ai perdu.
Oh non.
Parce que moi, le truc où je suis trop nul, c'est noter.
T'es un homme de l'instant et c'est beau.
Ouais, c'est ça. C'est peut-être très beau, mais c'est très compliqué.
Oui, bah oui, je comprends.
Genre, je dis toujours à mes clients ou aux gens avec qui je vais tourner ou quoi, est-ce que tu peux me le rappeler le matin même? Et je leur dis, c'est parce que parfois, j'ai pas les notifs de mes trucs, mais en fait, la vraie raison, c'est que je ne vais vraiment pas le noter, quoi. Je n'arrive pas à le faire.
Bah, moi, j'ai de la chance, je suis accompagné par une équipe, j'ai une manageuse, du coup, qui prend des notes pour moi, donc ça...
Ah ouais, ok.
Ça contrebalance.
Ça facilite un
petit
peu.
Ouais, de ouf. Mais je suis un peu pareil que toi. Genre, j'ai très tête en l'air. J'ai des très bonnes idées, mais elles disparaissent aussi vite, quoi.
Mais c'est peut-être pour ça qu'on a des très bonnes idées. C'est parce qu'on s'encombre pas de tous les autres trucs.
Peut-être. Ou alors qu'on a plusieurs fois la même idée sans s'en rendre compte.
Remarque, si tu notes, tu t'encombres pas. Tu y repenseras
le jour
justement,
même. Justement, tu te.
Justement, nous,
tu
on garde tout
de ta tête.
Voilà,
vraiment.
C'est ça. On est peut-être juste nuls. Bonjour à tous. Et pour ce nouvel épisode de Bastos Motivation, j'ai décidé d'inviter quelqu'un que j'admire beaucoup, donc je suis très friand du contenu. Félix Radu, bienvenue.
Merci beaucoup de ton invitation.
Je suis vraiment fan de toi.
Bah écoute, ça me fait plaisir, je suis très heureux de te rencontrer aussi.
J'écoute vraiment toutes tes vidéos, tous tes longs textes. Là, je trouve que c'est magnifique, c'est jamais niais, c'est jamais gênant. C'est non mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui essayent d'écrire sur l'amour et ça tourne vite au cheesy.
Oui.
C'est simple, juste et touchant.
Ça me fait plaisir.
J'étais en voiture avec mon stagiaire quand on les a tous réécoutés pour essayer justement de trouver un sujet à discuter avec toi. Et on a tous les deux eu la même idée. On s'est dit, genre les meufs aujourd'hui, c'est d'un mec comme ça qu'elles devraient tomber amoureuses en un clin d'œil.
Oh oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Ça me fait plaisir.
Tu dois avoir grave du succès avec les meufs.
Oui et non, enfin comme toi, je pense que t'as énormément de succès aussi, non?
Ça va.
Alors qu'on a l'air d'avoir des tempéraments...
Bah oui, je suis pas un aussi grand poète que toi.
Non, mais rien à voir, la poésie de toute façon ça se loge dans plein d'endroits, mais je pense que quand j'étais gamin j'avais pas tellement de succès, parce que les femmes s'encombrent pas, en tout cas quand on est jeune, la poésie, même pour les jeunes garçons, c'est pas ce qui est le plus à la mode. Mais en grandissant, avec la maturité, le recul, effectivement, ouais, je pense que quand tu t'es bien cassé la gueule et que tu t'es bien écorché les genoux, tout ce dont t'as envie c'est d'un peu de douceur et puis de rêver, quoi.
Et nous, on se disait exactement ça. On se disait, moi, je voudrais être avec une fille qui voudrait être avec Félix.
Wow.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qui aurait le goût de ça, tu vois,
oui,
au lieu d'avoir le goût des muscles et de...
Je comprends.
Et des paillettes. Des muscles et des Lamborghini.
Oh, bah après, ça sommeille en chacun de nous, tu sais, l'amour de la beauté, au sens primitif du terme, franchement, ça sommeille en chacun, mais oui, c'est sûr que se limiter à ça, c'est un peu naze.
Ouais.
Mais ouais, c'est beau de dire, j'aurais aimé une femme.
c'est pas mal.
J'aime ça, oui. Moi aussi. Mais après, je t'avoue que au vu de mon historique sentimental, franchement, c'est pas toujours les plus gentils non plus.
Ah ouais?
Les meufs qui aiment la poésie sont pas toujours les plus tendres.
Ok. T'es en couple en ce moment?
Non.
Ok.
Non.
Célibataire en plus, les filles, faites
sûr.
Doucement, mettez la clim.
Oh
ne
non.
Vous jetez pas sur Félix.
J'ai essayé de me fermer ma porte à double tour.
Ouais, parce que dans les commentaires, ça s'enflamme hein, sous tes vidéos.
Ouais, après tu sais, je pense que ça fait partie un peu de l'émotion collective. Comme c'est des chroniques qui parlent un peu à des sentiments forts, les gens sont... C'est toujours un peu extrême, mais je pense que quand tu rencontres les gens, tout de suite, t'es plus mesuré, quoi.
Ouais. Comment t'as commencé à faire ça?
Moi, j'en ai toujours beaucoup consommé en termes de lecteur, tu vois, j'en lisais. J'adore les auteurs romantiques. Et justement, en fait, on a tendance à rassocier les auteurs romantiques à cette mouvance un peu cheesy dont tu parlais, de Coup de foudre à Notting Hill, etc. Mmh. Alors qu'en fait, le vrai romantisme littéraire, c'est quelque chose qui est jamais cucu, qui est toujours plein de démons, de trucs, de recherche, de volonté de vérité.
Et de simplicité.
Ouais, de ouf. Et ça parle vraiment d'un sentiment pur, et c'est beau, et c'est jamais facile, et c'est jamais... Et donc, j'ai toujours aimé écrire ça et lire ça. Et en fait, un jour, la radio m'a appelé, et le mec, en fait, me dit, voilà, notre chroniqueur star, il doit s'en aller en vacances, tu dois le remplacer pour 3 chroniques. Et je pense qu'il a eu la flemme de m'expliquer ce que je devais faire, et m'a dit, tu sais quoi, carte blanche, fais ce que tu veux. Mais je pense qu'il s'attendait pas un seul instant à ce que je vienne avec des poèmes.
Ok, d'accord.
Donc je suis arrivé le premier jour avec ma petite poésie de SME, et je vois le présentateur lever les yeux en mode, qu'est-ce que ce connard est en train de faire à notre radio? Et tous les régisseurs sont là, est-ce qu'on coupe le micro, qu'est-ce qu'on fait? Et on me laisse faire, et je sors, et un mec m'attrape et me dit, tu n'as rien compris à la radio, mon pauvre vieux.
Oh,
personne
non.
ne va aimer ça. Oh. Alors c'est pas contre toi, hein, c'est pas que t'écris mal, mais on ne fera plus rappel à tes services, et les prochains papiers que t'as à faire, tu nous les feras relire à l'avance. Et je me dis, je m'en fous si Renaud Bergerac, on me rappellera jamais, mais je vais les faire sans me faire relire. Et en fait, ils ont quand même posté ma chronique par acquis de conscience, et on a fait 2 millions de vues en une semaine. Et le même mec m'a rappelé et m'a dit, Félix, tellement heureux de t'avoir sur nos ondes, putain, mais t'as tellement tout compris.
Est-ce qu'il a refait allusion à son comportement?
Non.
Tu vois, ça c'est fou, je trouve.
C'est retournement de veste. Après, tu vois, je peux comprendre que le mec soit un peu du père, c'est parce qu'on lui avait demandé peut-être.
Ouais, mais alors tu, d'une certaine manière, t'admets ton erreur. Je veux dire, ou au moins tu présentes tes excuses pour un comportement qui est...
Après, bah, il m'a pas manqué de respect, tu vois. Genre, il m'a dit,
méchant,
t'as pas respecté la consigne.
T'as rien compris à la radio,
ouais.
C'est méchant.
Bah, il le pense, tu vois, peut-être.
Ouais.
Mais effectivement, oui, moi.
Ouais, mais je veux dire, il y a des manières, quoi.
J'aurais apprécié, hein. Putain, j'ai fait fausse route.
Ouais, voilà.
Mais je pense qu'encore aujourd'hui, dans la radio, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je fais, qui ne comprennent pas pourquoi ça marche.
Ouais, je pense qu'encore aujourd'hui, il y a des gens dans la radio qui ne comprennent pas la radio.
C'est vrai, et j'en connais énormément.
Ouais, et pourquoi ils ne comprennent pas la radio? Parce que la radio d'aujourd'hui n'est pas la radio d'hier.
Bien sûr.
Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est « Faut-il croire en l'amour pour être heureux ?» Pourquoi j'ai choisi ce sujet exactement? C'est en écoutant tes textes. Ouah, ça me donne la chair de poule. J'ai envie de croire en l'amour en écoutant ça.
Mais tu n'y crois pas ?
J'ai envie... Alors, je vais t'expliquer, en fait. Mmh. Quand je dis croire en l'amour, bien sûr, je crois en l'amour. Je crois en l'amour qui existe tout autour de nous. Tu vois ce que je veux dire ? J'aime ma famille, j'aime mes parents, j'aime mes amis. J'ai aimé... Maintenant, quand je dis croire en l'amour, c'est croire en l'amour comme cette espèce de graal ultime, un peu considéré comme le truc qui peut te rendre le plus heureux au monde et qu'il faut essayer d'atteindre le grand amour avec un grand A pour avoir une vie heureuse. Et c'est plus ça, moi, pour lequel j'ai un peu perdu la foi,
ouais.
Tu vois. Oui, j'ai été amoureux, donc je peux pas ne pas y croire.
Est-ce que c'est ça
qui doit me rendre heureux? Est-ce que c'est ça le but ultime de ma vie? Et quand on écoute tes textes, on fait « mais c'est ça le truc le plus beau au monde ».
Il a raison, putain.
Tu vois, ouais, on fait « c'est ça le truc le plus beau au monde ». Est-ce que je suis un mec triste de ne plus y croire?
Oh non.
Tu vois, j'en étais à me demander ça et je me disais « mais lui, il est plus heureux que moi parce qu'il y croit ».
C'est charmant de le penser, mais non. Puis en plus, c'est pas parce que je fais de l'art où je le raconte que j'y crois forcément plus que toi. Je pense que c'est pas parce que les choses existent pas qu'on ne doit pas les faire exister.
Ouais.
Même, je trouve ça encore plus beau de faire exister quelque chose parce qu'elle devrait être là et qu'elle n'est pas là, en fait. Et donc, je pense que c'est la mission de l'art de dire l'amour avec un grand A n'existe pas parmi les hommes, alors parlons-le, racontons-le, faisons-le exister dans nos récits.
Ah, tu penses qu'il n'existe pas? Ou
si,
peut-être pas assez.
Mais je pense qu'il existe d'une manière différente de ce qu'on a tendance à nous vendre ou à nous éduquer. Par exemple, quand j'étais ado, j'étais dans une grande recherche d'effectivement l'amour idyllique, parfait, avec la femme idéale. Et je me suis rendu compte en grandissant que tout le monde était imparfait et que vraiment le monde n'est que jalonné de rencontres qui ont des imperfections, des ratés, des maladresses. Et que justement, en fait, le jour où t'arrives à aimer les maladresses de quelqu'un, où t'arrives à comprendre que cette personne ne te correspondra pas toujours totalement, mais que c'est elle que tu décides d'aimer, avec elle que tu décides de faire un bout de chemin, c'est ça le plus beau du monde, quoi. C'est ça l'amour avec un grand A. Pour moi, on peut avoir plusieurs grandes histoires d'amour dans une vie. Et on ne doit pas s'exténuer à faire durer une histoire, mais plutôt à la vivre sincèrement et authentiquement, quoi. À partir de ce moment-là, si tu romps avec quelqu'un, c'est plus un échec. Au contraire, c'est une réussite si t'arrives à dire « on a vécu ce qu'on avait à vivre, aujourd'hui nos chemins se séparent » et je trouve ça tout à fait charmant, quoi.
Je suis hyper d'accord avec toi, sauf que pour moi, le bilan d'une histoire d'amour, très souvent, il a été négatif, si on considère que le négatif est la tristesse et le positif est le bonheur. J'ai plus été rendu malheureux et cette souffrance, moi, est trop dure à supporter comparé au bonheur que ça m'a apporté, tu vois ce que je veux dire ? Et je suis sûr d'avoir été amoureux à chaque fois. Le bilan, il est négatif. J'ai été blessé, j'ai été rendu trop triste et quand je compare les moments où j'ai été amoureux et les moments où je ne suis pas amoureux et je suis libre de ce gigantesque fardeau que représente l'amour pour moi, je suis plus heureux quand je ne porte pas. Je suis plus heureux quand personne me manque, quand je n'ai hâte de retrouver personne. Je suis plus heureux quand je n'ai pas peur de perdre cette personne que j'aime plus que moi-même. Je suis plus heureux quand j'ai pas peur de ne pas lui manquer autant qu'elle me manque. Tu vois ce que je veux dire ?
Très bien.
Et tout ça, c'est un stress gigantesque.
Est-ce que ça, c'est l'amour ou est-ce que c'est le sentiment... tu sais, c'est la phrase d'Alfred de Musset, « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, mais j'ai aimé. »
Ouais.
Et je pense que si tu souffres aussi fort, c'est parce que t'as misé beaucoup sur la table. La douleur n'est pas forcément quelque chose de négatif, on le rattache beaucoup. Tu vois, le chagrin amoureux, on le rattache beaucoup à quelque chose de mal, alors qu'en réalité, c'est qu'il y a eu quelque chose, s'il n'y a plus. Et c'est ce qu'il y a de plus sublime sur Terre, en fait. C'est une phrase que j'ai dit à une amie hier, je dis en fait, c'est une idée tout à fait sublime que d'établir une ambassade autre part que dans ton corps. Faire de l'autre une ambassade de ton cœur, tu vois,
beau.
Genre t'as un petit être à toi qui... Enfin bon.
Stylé.
Ouais, je trouve ça c'est ce pourquoi moi je pense que c'est ça vaut le coup quoi, même si tu chiales ta race, ça vaut le coup de pleurer.
Je sais pas. Et après je vais te dire même quand je le connais pas ce grand amour, je ressens un genre de pression sociale de le connaître, ou en tout cas de le vivre, c'est-à-dire que en ce moment je suis très heureux parce que justement je n'ai pas d'autre attachement d'amour que celui que je peux avoir pour ma famille, pour mes parents, etc., qui ne peuvent pas m'échapper.
Oui, tu vois.
Je n'en ressens pas d'autres et du coup, j'ai l'impression de plus vivre les choses pleinement, d'être plus dans le moment, d'être plus connecté à ce que je fais. Mais je ressens un petit peu la pression de Bastos, tu as 35 ans.
Non.
Tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas en couple.
Ah ouais.
Qu'es-tu en train de faire de ta vie ? Alors, j'ai établi que cette pression ne vient pas de ma famille dans une vidéo précédente.
Elle vient de ton entourage.
Mais elle vient du regard de la société sur ma vie.
Si tu le mets au pluriel, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, arrêtons de chercher le grand amour, cherchons les grands amours.
Et vivons-les pleinement.
Vivons-les pleinement, ouais. Bah, les moments de solitude font aussi partie de la vie puisqu'elles te permettent de te reconstruire et puis de te recentrer sur toi, de grandir et de te préparer potentiellement à une nouvelle histoire. C'est comme quand tu finis un roman. Y a des gens qui en rattaquent directement d'autres. Moi, je suis plutôt du genre de lecteur à terminer un livre et prendre une semaine pour digérer tout ça, repenser au personnage, me dire putain c'était bien ce moment-là. Et c'est un peu pareil avec les êtres humains, tu vois.
Ouais.
T'as le droit aussi d'avoir des moments pour toi et c'est même très bien. Et je pense justement que l'amour dont tu parlais tout à l'heure, qui est un amour qui te fait sentir pas bien du coup, parce qu'il fait ressortir en toi le manque, la douleur, le truc, peut-être qu'un jour tu vas rencontrer quelqu'un, plutôt que de te faire sentir mal, va mettre en lumière ta solitude par exemple. Tu te sentiras aussi bien que tout seul, mais en plus mieux. Tu vois, quelqu'un qui arrive à valoriser ta solitude, à valoriser ton univers interne, tes moments à toi, ton travail, ta confiance, quelqu'un qui rejoint ton aventure sans l'alourdir, sans la dévier, juste quelqu'un qui marche à ta hauteur. Je pense que c'est ça la plus belle définition de l'amour aussi, tu vois.
Ouais.
Et je pense que tu le mérites et tu le rencontreras sûrement. Il y a plein de gens, plein de manières d'aimer et si t'as... De toute évidence, exercer beaucoup l'amour douloureux. Peut-être qu'un jour, tu rencontreras un amour totalement différent qui ne correspond pas à ta définition de l'amour ou de celle qu'on t'a communiqué jusqu'alors, tu vois. Moi, ça m'est arrivé aussi de me dire, c'est pas possible que ce soit de l'amour, ça ne ressemble pas à ça. Mais c'est surprenant aussi, tu vois, quelque chose qui ne correspond pas au code. Je pense que chaque personne qui rentre dans ta vie t'amène une nouvelle définition de l'amour parce que chaque histoire est différente, chaque histoire correspond à des codes et à des règles différentes et il n'y a pas de loi, quoi.
Il n'y a pas de loi, donc il faudrait, malgré le fait que mon expérience globale est plutôt, pour l'instant,
négative.
Ouais, pleine de souffrance, il faudrait que je continue à espérer, en fait.
Bah, c'est pas continuer à espérer, je pense pas.
Continuer à espérer qu'un jour l'amour ne me fasse plus de mal.
Oh non, parce que ça fera toujours mal. Je pense que l'amour, par définition, fait mal, puisque,
ouais,
comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, tu remets entre les mains de quelqu'un d'autre le potentiel bonheur que tu pourrais avoir. Donc forcément, il y a un moment où la personne en face de toi, elle saura pas comment faire, elle fera des maladresses, elle fera des erreurs, elle te dira pas ce qu'il faudra dire, elle t'aimera pas de la manière dont t'en as besoin. Donc forcément, aimer, ça veut dire souffrir. Par contre, ce que je trouve très très beau, c'est de dire à quelqu'un, je te jure que je ne te ferai que le mal obligatoire. Je ne te blesserai jamais intentionnellement. Toutes les douleurs que tu ressentiras, que peut-être celle du départ, par exemple, si un jour je ne t'aime
plus,
c'est celle que je serai obligé de faire.
Ouais, si un jour tu souffres, je vais te faire mal quoi qu'il.
Ouais. Ouais, mais enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de le dire. Ça m'est déjà arrivé de le dire à quelqu'un que j'aime, de dire, je te promets que je ne te ferai que le mal obligatoire. Ouais. Si un jour on doit se séparer, on pleurera, on s'aime, mais du coup, on est un peu attaché comme du papier adhésif. Et bah, ouais, quand il faudra l'arracher, ça fera un peu mal.
Je parlais juste à l'instant avec un copain de ces moments où tes émotions, tu vois, dans la colère, dans la tristesse, vont aller chercher dans ta raison la manière de blesser l'autre. Et finalement, c'est pas toi qui vas choisir de blesser l'autre, mais tu vas être victime de tes émotions qui vont aller trouver exactement la manière juste de piquer l'autre en plein cœur. Et ça m'arrive, ouais, et ça m'arrive. Et justement, j'en parlais avec lui d'un moment où ça m'est arrivé, ça m'est certainement arrivé plusieurs fois. Instantanément, tu regrettes parce que tu sais que ces paroles-là ont fait plus de mal que tout, tu vois, et parfois seront inoubliables pour l'autre.
Bah ouais, parce que l'autre est vulnérable, même si c'est potentiellement une connasse ou un connard avec toi.
Et puis si tu connais cette personne mieux que personne,
tu sais comment faire mal.
Mais le jour où t'es blessé par l'autre, il n'y a pas de filtre, t'y arrives pas. Et tu regrettes instantanément dès que les mots sont sortis de ta bouche.
Je comprends.
Du coup, ça, c'est aussi un mal, je veux dire, nécessaire, celui qu'on n'a pas pu contrôler.
Je pense pas, mais je comprends là où ça va. Et on est humain, donc ça nous arrive à tous d'être très en colère et de dire ou de faire des choses qu'on regrette instantanément. Moi, genre, je suis plutôt de l'école de l'immobilité. Quand je sens que je suis en colère ou que je ressens des sentiments négatifs, je préfère me taire plutôt que de mal dire. Ouais. Et du coup, en fait, ça m'amène aussi d'autres problèmes. C'est-à-dire que la personne en face, elle peut être très en colère d'avoir quelqu'un qui reste silencieux dans un moment où il faut parler. Je préfère vraiment rester immobile jusqu'à ce que tout ça passe et que je prenne du recul plutôt que de dire des choses et puis de me rendre compte une heure plus tard que merde, j'aurais pas dû dire ça, pas comme ça.
Ça me rappelle une histoire où il y a 4-5 ans, ma copine, dont j'étais fou amoureux, un de mes plus grands amours, vraiment, je me serais jeté sous un camion.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On pourrait aller en une seconde. Ma copine m'offre un cadeau pour la Saint-Valentin ou mon anniversaire ou je sais plus à quelle occasion. Et ce cadeau, il est hyper décevant. Pourquoi ? Parce que il a rien à voir avec moi. J'ai l'impression qu'elle me connaît pas quand elle m'offre ce cadeau. Elle m'offre un bracelet. Je ne porte rien. Je ne porte pas de bracelet. Je porte pas de bague parce que j'ai besoin de mes mains. Dans la vie de tous les jours et tout me gêne. Et en plus de ça, j'ai quand même un style, j'ai quand même, tu vois, une manière de m'habiller, une manière de...
J'espère que tu lui as pas dit ça. Je peux pas le mettre parce que j'ai du style.
Et l'objet qu'elle m'offre, le bracelet, est complètement à l'opposé de tout ce que j'aime. En plus, encore si elle m'avait offert un bracelet sans avoir compris que je ne portais rien. Mais en plus de ça, pour moi, c'est moche.
C'est très éloigné, ouais.
C'est moche.
Mais peut-être que c'est quelque chose qui la représente, elle, qui l'aime. Elle.
Voilà, peut-être. Mais sur le moment, je me dis, moi, quand j'essaye de lui faire plaisir...
Ouais, tu penses à elle.
Je pense à elle, pas à moi. Je veux dire, j'aime bien les jeux vidéo, elle n'aime pas ça, je ne vais pas aller
lui offrir FIFA 23.
Voilà, FIFA 2023. Ce cadeau me blesse. Et du coup, je me dis, il faut absolument que je dise rien, mais en même temps, je peux pas. C'est pas possible.
Chose, ouais.
Ça bouillonne, c'est pas possible. Il faut qu'elle comprenne pourquoi ça me blesse, tu vois.
Tu peux. Hein,
et sur le moment, j'appelle mon meilleur ami et je lui dis, je fais quoi? Je suis sur le point de péter un câble, je fais quoi? Quand je dis péter un câble, ça veut dire laisser justement sortir ses émotions et risquer de dire des choses blessantes.
Ouais.
Et il me dit, ne dis rien et laisse passer du temps. Ses émotions, elles sont très fortes à ce moment-là, mais peut-être que demain, ça aura plus d'importance.
De ouf.
Et c'est vrai que le lendemain, toutes ses émotions, elles s'étaient calmées. Et je me suis dit, bon, finalement, peu importe. Quoi.
Ouais.
C'est pas grave.
Pour moi, tu sais, il y a cette phrase qu'on nous dit enfant, mais qu'on prend plus le temps de. C'est l'intention qui compte. Tu sais, on la répète, mais on prend rarement le temps de la réappliquer. Cette meuf, quand elle t'a acheté ce truc-là, elle a dépensé de la thune, elle a pris du temps pour aller acheter. Donc, l'intention, c'était de te faire
pas
plaisir.
Pas beaucoup de thunes, certainement.
On veut pas savoir. Et puis, en vrai, il y a des gens qui sont pas doués pour les cadeaux, tu sais. Et ouais. Ils ont d'autres qualités. Peut-être qu'elle était de bonne compagnie. Peut-être qu'elle avait le trait d'esprit. Peut-être qu'elle faisait bien l'amour. J'en sais rien. Ça me fait penser à mon père. Mon père qui, du coup, tu vois, il m'aime énormément puisque je suis son gamin. Mais à Noël, il m'a offert une bouteille de Jack Daniels.
Ouais.
Je bois pas de Jack Daniels.
Je bois pas.
J'avais envie de le dire comme toi, mais on ne se connaît pas.
Ouais.
Tu n'as rien compris à qui je suis.
Et en fait, lui, il avait envie de se faire une petite lampée.
Non, mais il avait envie de me faire plaisir et il s'est dit peut-être que, et sur le moment un peu pareil que toi, j'ai envie de lui dire, mais gros. Ouais. Et en fait, tu te dis, vas-y, il a pris de son temps, il a cherché un truc, même si c'est pas grand chose, il est peut-être juste pas doué pour dire je t'aime, quoi.
Ouais.
Faut parfois aussi se rappeler que les gens ont pas les mêmes langues d'amour, quoi. On communique pas tous de la même manière nos sentiments et quand tu penses à ça, tu relativises, quoi.
Complètement différent et c'est aussi pour ça que c'est hyper dur.
Chez toi et puis voilà, quoi.
Toi, tu ressens pas, là, n'étant pas en couple, tu ressens pas une pression. T'as quel âge?
27.
Ouais, tu ressens pas une pression d'être en couple de la part de ta famille, de la société, de tout ça?
Je ressens pas de pression à être en couple. Je pense qu'effectivement, il y a une forme de vénération de l'amour, mais auquel je participe.
Ah bah, activement.
Mais j'ai quand même l'impression de m'être détaché de l'obligation d'être en couple. En tout cas, du couple comme on nous le vend et comme on voudrait à quoi ça ressemble, tu vois.
Ouais.
Je pense que notre génération, justement, est en train de déconstruire ça et de proposer des alternatives au couple et à l'amour.
Ouais,
que
c'est sûr.
Dans la
c'est
manière ça, la de mouvance. Vivre, dans la manière de le faire ou de l'interrompre aussi. Mmh. Tu sais, on a vraiment longtemps vu ça comme cette génération, elle jette quand ça casse, alors que nous, avant, on réparait. Et aujourd'hui, enfin, ce sentiment péjoratif un peu passéiste, aujourd'hui, il laisse place à justement au contraire. En fait, on vit nos histoires jusqu'au bout. Et au lieu de faire maintenir des morts vivants épouvantails qui n'ont plus aucun sens puisqu'on ne se parle plus, on fait plus l'amour, on se déteste, on vit dans la même maison. Au lieu d'avoir ça, on décide de porter nos couilles et de porter nos ovaires pour faire et de juste dire stop, ça ne me convient plus, cette relation ne me va plus. Tu n'es plus une personne pour moi. Chaque personne change continuellement. La personne que tu es devenue ne m'apporte plus rien de ce que je voudrais aujourd'hui. Donc je ressens pas de pression. Après, j'ai quand même des résidus romantiques un peu partout dans mon corps. Quand je suis célibataire, j'ai toujours hâte, toujours très impatient de savoir
de qui tu vas tomber amoureux la prochaine fois.
C'est genre quand t'es chez toi, tu te dis j'ai tellement hâte de savoir la couleur des yeux de la personne que je vais aimer, genre, l'odeur de son parfum, genre à quoi elle va ressembler, comment va être son rire, qu'est-ce qu'elle va aimer comme série. J'ai vraiment l'impatience de la nouvelle histoire. Dire, oh, j'ai tellement hâte de savoir de qui je vais tomber amoureux.
Je l'ai un peu aussi, ça, de l'inconnu. Et puis surtout, quand je le suis pas, j'ai l'impression que je connais plus cette émotion. Mmh. Tu vois, comme si à chaque fois que tu le revis, c'est comme si c'était la première fois. Et ben, j'ai l'impression que je la connais plus. Et je me dis, mais c'est impossible, ça m'arrivera plus jamais.
Mais c'est parce que je pense qu'à chaque fois, c'est une première fois. Je pense vraiment que chaque histoire, à chaque fois, c'est un nouveau jeu, quoi. Mmh. C'est comme si t'avais une console, mais que tu mettais à chaque fois une nouvelle disquette dedans. Tu ne retomberas plus jamais amoureux de la manière dont t'as été amoureux d'une personne. Et donc, à chaque fois, c'est un nouveau truc qui redémarre. Et t'es, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Parce que c'est tout nouveau, quoi.
Ouais, c'est ça. Le prochain grand amour, tu peux le croiser n'importe où. Ça peut être, tu vois, un ascenseur de la rue, un mot, tu peux l'avoir à la télé.
Machin, bien sûr.
Ouais.
Et puis, enfin, ce qui est malheureux pour le coup, parce que là, je suis dans une good vibe, mais ce qui est un peu tristoun, c'est que parfois, en fait, le temps d'apprendre l'autre, le temps d'apprendre les codes et la manière dont tu dois l'aimer, en fait, c'est trop tard.
Ouais.
Le truc est gâché. L'apprentissage ruine l'amour, quoi.
Ouais.
Et c'est la phrase de Louis Aragon dans Il n'y a pas d'amour heureux. Il dit le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard.
Et c'est peut-être ça en fait qui m'est arrivé à chaque fois. Peut-être que ça s'est fini avant d'apprendre à vivre ensemble.
Bah si à la fin de l'histoire tu pouvais reboot avant toute la douleur, si tu pouvais reboot et que tu connais comment fonctionne l'autre, comment ce serait.
Ouais.
Je pense que les histoires dureraient tellement plus longtemps.
Mais bon, après c'est aussi le charme
aussi le truc, hein, c'est
de la vie, ouais.
Ouais.
Tu peux pas te préparer puisque tu peux pas te préparer à la personne complètement nouvelle et complètement inconnue que tu vas rencontrer.
Ouais, justement, et puis surtout l'amour c'est l'inattendu, quoi.
Tu peux pas t'y entraîner parce que avoir eu une grande histoire d'amour avec quelqu'un t'aidera jamais pour le prochain.
Non. Je
me demande s'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres.
Peut-être.
Exercice.
Peut-être qu'il y a des tempéraments qui aident, tu vois.
Ouais.
Après, l'amour, ça se fait à deux, ça se fait pas tout seul. Donc, c'est un peu pareil que le sexe. Tu vois, les gens qui disent « je suis un très bon coup », bah, souvent, t'as envie de dire « frère, tu peux pas le savoir tant que t'as pas quelqu'un en face de toi », puisque par définition, le sexe, tu le fais à deux. Donc, ça va dépendre de comment...
Et puis surtout, un bon coup, il y a un côté hyper général dans un bon coup, alors que finalement, bah, t'es un bon coup pour cette personne, pas forcément pour cette autre.
Le sexe, l'amour, ce sont des dialogues, et donc tu peux pas savoir tant que t'as pas quelqu'un en face de toi.
Moi, tu vois, plus elles sont belles, plus elles me font peur.
Ah, moi aussi. Moi, la beauté me terrifie. Moi, la beauté me terrifie.
Ah ouais? La beauté te fait peur?
La beauté me terrifie. Enfin, elle me terrifiait davantage quand j'étais ado.
Pourquoi?
Ça vient certainement d'un résidu romantique, mais la vénération, tu sais, d'une fille, quand je la trouve vraiment très belle, ça m'impressionne terriblement. Et quand j'étais petit, je pouvais rester muet face à la beauté. Tu sais, je la dessinais, je l'écrivais, je la racontais. Qu'est-ce que c'est beau? Je pourrais mourir. Ça me frappe le ventre. Tu sais, il y a des gens qui sont tellement beaux qui te bousillent le ventre, quoi.
Ouais.
T'as l'impression de te faire rouler dessus par un camion.
J'étais amoureux en primaire d'une fille. J'allais manger chez elle, on jouait à puissance 4. Sa maman et ma maman étaient copines en plus. Donc du coup, j'étais invité, tu vois. Et ouais, j'étais amoureux d'elle, mais je lui ai jamais fait part.
T'étais trop petit, ouais.
Voilà. Et je croyais qu'avec le temps, tu vois, je serais moins timide avec l'amour et avec cette beauté. C'est pour ça que je me retrouve dans ce que tu dis. Elle est partie, cette fille, elle est partie. J'habitais à Brest, elle est partie. Elle est à Paris ou je sais plus dans quelle autre ville pendant quelques années. Et elle est revenue. Elle est revenue quand j'étais en quatrième, un truc comme ça. Et elle se retrouve dans ma classe. Et lors de cette première journée d'école, elle est juste assise derrière moi. Et moi, genre, ça bouillonne en moi, tu vois. Je me dis... quoi, j'ai
toutes ces années, je suis devenu au cahier, je suis prêt.
Elle me tape sur l'épaule et elle me dit « Alors, ça va et tout ? Putain, je me rappelle de ton petit frère, il a quel âge maintenant ?» Et là, j'ai rien répondu, je pouvais plus parler.
Non, Zinedine, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ah merde.
J'ai beaucoup de moments dans ma vie
où t'as bug.
Hyper romantique face à la beauté et face à l'amour. Où j'ai bugué. Quand j'habitais à Tahiti, c'était en terminale. En terminale, il y avait une fille, j'étais fou amoureux d'elle. Vraiment fou amoureux d'elle. Et c'était en même temps ma meilleure amie. Ça veut dire que les jours où elle était là, c'était des jours de vacances. Mmh. Et les jours où elle n'était pas là, c'était des jours d'enfer. C'était comme des jours d'examen. Et parfois, les profs, à l'entrée dans la salle, devaient nous préciser qu'on n'avait pas le droit de s'asseoir à côté. Parce que rigolait trop. Oh. Tu vois, il y avait trop une fusion pour qu'on puisse apprendre quoi que ce soit, tu vois. Et puis à la fin de l'année, j'ai bu de l'alcool pour la première fois. C'était de la manzana. Et on s'est embrassés et on a couché ensemble. C'était la première fille que j'embrassais hein, en terminale.
Et avec qui tu faisais l'amour, du coup?
J'ai mis du temps, tu vois. J'ai été très souvent paralysé.
Voilà, l'alcool a aidé.
Et on a couché ensemble. C'était aussi, du coup, la première fille avec qui je faisais l'amour. Et j'ai été, bien sûr, bien aidé par l'alcool, parce que sinon ma timidité et mon blocage auraient eu raison. Ouais, j'aurais quitté la soirée. Et le lendemain matin, je me lève en premier et je vais m'asseoir, on était dans une grande villa, je vais m'asseoir à la table pour le petit déjeuner. Et elle me rejoint, elle s'allonge sur le banc, j'étais sur un banc comme ça, elle met sa tête sur mes genoux, j'ai pris sa tête.
Non,
je
non,
me suis
non.
levé, j'ai reposé sa tête, je suis parti.
Non.
Et je lui ai plus jamais reparlé.
Non.
Plus jamais.
Oh, mais gros.
Je suis rentré en France parce que j'avais eu mon bac, c'était la fin, je rentrais en France, elle restait à Tahiti. Je le savais aussi, je sais pas si c'est ça qui a joué.
Ah, peut-être que, ouais, tu t'es auto-protégé, quoi. Mais...
Peut-être, je sais pas si c'est ça qui a joué. En tout cas, j'ai eu une peur bleue de lui adresser même ne serait-ce que la parole.
Et vous êtes reparlé depuis?
Et on s'est jamais reparlé. Et pour une vidéo, j'ai voulu la retrouver et bah puis ouais.
lui
expliquer, ouais, enfin lui expliquer ce que moi-même je ne peux pas m'expliquer, mais
non,
en
mais
parler.
C'est intéressant.
Et impossible de la retrouver. J'ai contacté des amis qu'on avait en commun à Tahiti, etc. Personne n'a pu lui mettre la main dessus et elle a disparu de la circulation.
Mais gros, il faut la retrouver.
Ouais.
Ça va devenir la mission de ma vie.
Donc je me retrouve vachement dans ce que tu dis d'être paralysé devant la beauté, devant l'amour, devant.
Ouais,
et tu vois, j'en ai toujours peur. En fait, rien n'a changé.
Ouais. L'amour, par définition, c'est glisser dessous, donc tu peux pas te protéger de ça, quoi.
Ouais. J'ai trouvé peut-être une solution. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je sais que beaucoup de sexe...
Avec la même personne ou avec plein de gens ?
M'empêche un petit peu de... Enfin... disons, me rend moins vulnérable émotionnellement.
Mais oui, mais du coup, est-ce que c'est pas refuser le jeu, tu vois ?
Ouais, si, c'est refuser le jeu.
Mais du coup, tu n'aimes plus ou tu n'aimes... Enfin, tu vois ?
Ouais.
Le but, c'est de réussir à aimer en se protégeant, non ?
Bah, juste moi, le but, c'est de réussir à ne
plus souffrir.
Plus aimer. Tu vois?
Ah oui, je vois.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, en fait, t'es Camille dans On ne badine pas avec l'amour. C'est je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Mmh. Mais ça, c'est impossible, quoi.
Pendant une période, je m'étais un petit peu, vautré dans les plaisirs de la chair. Et justement, l'amour m'a manqué parce que ça a été une longue période de 2 ans où je n'éprouvais plus de vraie grande affection, quoi. Où j'avais plus de coups de foudre. J'avais plus de. Ouais, voilà, ça m'endort. Et du coup, j'avais fait une période d'abstinence pour justement me sortir de cette simili-addiction et redevenir disponible émotionnellement. Et ça avait marché. Et j'étais de nouveau tombé fou amoureux. Et j'ai bien regretté. Parce que j'ai pris très cher, ouais, presque plus cher que jamais.
Ça me fait penser aux Confessions d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset, ce que tu dis. C'est un livre qu'Alfred de Musset a écrit, qui raconte du coup l'histoire d'un homme qui se fait tromper par sa copine et qui, du coup, par ce chagrin amoureux, décide de se guérir du malheur amoureux par différentes méthodes. Et d'abord, il essaye la fête, le sexe.
Okay.
Et puis, il se rend compte que c'est pas tellement là la solution. Puis derrière, il s'exile, donc il est tout seul. Et puis, il se rend compte que c'est pas tellement là la solution.
Ouais. Mais alors, lui, il essaye de se guérir d'un chagrin amoureux. Moi, je sais que je guéris.
T'essaies de te guérir de l'amour.
Ça prend longtemps, tu vois, mais je sais que je guéris. Je sais que ça prend un moment, mais qu'on guérit. Moi, c'est du prochain que j'ai envie de prévenir.
C'est encore plus
en fait,
joli.
Je suis dans le prévenir plus que dans le guérir, tu vois.
C'est encore plus dramatique. Je trouve que c'est presque romancier, quoi. Tu devrais écrire un livre là-dessus.
En tout cas, quand on t'écoute, je crois que tes chroniques, t'aurais presque pas besoin de les écrire à l'avance. T'en parles naturellement de ces choses et tu choisis les bons mots. C'est toujours, c'est trop stylé.
Bon, c'est gentil, c'est gentil, ça me fait plaisir.
Je suis content de t'avoir là.
Merci, moi aussi, ça fait plaisir d'être là avec toi. Je trouve tes réflexions aussi très intéressantes parce que, genre, je pensais à première vue qu'on aurait certainement deux discours plutôt différents. Et en fait, au contraire, on se rejoint sur plein de points. C'est juste que ton expérience t'a amené à un endroit et mon expérience m'a amené à un autre. Mais qu'on est parti sur la même base, quoi.
Parce que t'as vu, je me suis retrouvé dans plein de.
Moi aussi.
Dans plein de choses que t'as dites. Pour finir, là, j'ai lu un article du Bonbon, vite fait. Je sais pas si tu l'as vu dans ma story, où une fille disait que ce grand amour, c'était voilà, un truc qui était un peu inventé et romancé, justement, comme tu l'as mentionné au début, pour bien, comment dire, s'inscrire dans la société. C'est-à-dire, le but de la société, c'est de se reproduire, c'est de bien s'occuper de ses enfants, que la société reste jeune. Du coup, ça marche mieux quand les couples se mettent par paire et restent longtemps ensemble. Et donc, que c'était quelque chose d'artificiel. J'ai eu des réactions de mes abonnés hyper véhémentes.
Ah ouais ?
Ah ouais, ouais, hyper énervé. Parce qu'en fait, les gens sont vraiment hyper accros à cette idée de non, ça existe.
L'amour.
Et c'est le truc le plus beau. Et je vais me battre pour ça. Et en fait, tu vois, en faisant ça, moi, je me suis presque dit, peu importe, ce qui est hyper beau, c'est le fait d'y croire. Et en fait, finalement, c'est un peu comme dans la religion, c'est pour ça que j'ai un peu comparé les deux. C'est avoir la foi, en fait. Et c'est un peu ça, la conclusion que je pourrais imaginer dans ça. C'est en fait, peu importe que ça existe pas, que ça a été créé, que ça n'ait pas été créé. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir la foi et c'est ça, l'amour.
Toi, t'as l'amour de la famille, t'as l'amour des amis. En fait, pour moi, c'est le même sentiment qui s'attribue à des gens.
En fait,
c'est juste qu'il y en a une autre où tu mêles le désir avec ça, le désir sexuel. Mais pour moi, quand tu aimes ton partenaire de vie, c'est comme si t'aimais ton meilleur ami. Sauf que, bah, du coup, il y a le désir en plus et c'est souvent le désir qui va foutre le bordel dans le truc parce que t'as la jalousie qui vient avec et puis le sentiment d'appartenance. Mais pour
tu
moi, l'amour.
Que le sentiment d'appartenance vient du désir.
Bah non, mais je pense que ce sont des choses un peu comme un cocktail, tu vois. Ouais. Il y a plein de choses dedans. La volonté d'appartenir à l'autre et que l'autre t'appartienne un peu. La volonté d'établir ambassade dans le cœur de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est tout ça en fait amène un tas de problèmes qui sont pas à empêcher puisque en fait, ça, si le problème existe, c'est les faces d'une même pièce. Si le problème existe et qu'il y a aussi un penchant lumineux, que justement, t'es attaché à quelqu'un et que c'est
partout, il y a un penchant sombre, tu penses qu'il y a un penchant lumineux.
Je pense qu'il y a des contreparties, tu vois. Et le fait d'être attaché à quelqu'un positivement, bah, ça veut dire que négativement aussi, ça peut te faire mal, mais c'est pas grave, ça fait partie. Et en fait, c'est ça qu'il faut accepter, c'est que l'amour, ça fait extrêmement bien, mais ça fait extrêmement mal aussi. Et c'est pas grave, c'est le jeu. Et c'est, j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, mais j'ai aimé, quoi.
Et ben, je pense qu'on va finir sur ces belles paroles.
C'est beau, Alfred de Musset, tu nous écoutes.
Merci Félix.
Merci à toi.
C'était trop cool de venir. J'espère que vous avez kiffé cette petite discussion autant que moi je l'ai kiffé. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu, souscrivez à la chaîne et activez la petite cloche pour ne louper aucun des prochains podcasts. Avec Félix, on vous fait des gros bisous.
La bise.
Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.
Oh, ce qu'on va se mettre.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.